Vivre sa ville, bonjour Sylvie Andreux, Véronique Villa. Ce matin, livre de ville. Actualité littéraire ce matin, deux livres sur deux univers urbains apparemment différents. Les mondes des squats à Marseille et Montréal souterrain, même si l'on peut se demander s'il n'y a pas davantage de lien entre le sous-sol de nos villes et les abris des squatteurs. Quoi qu'il en soit, les squatteurs ont mauvaise réputation, c'est Florence Bouillon qui le dit, socio-anthropologue, après une enquête qui a duré 10 ans. Ce sont des urbains avisés, aux marges de la ville, qui en connaissent tous les ressorts et inspirent le plus souvent de la méfiance à ceux qui les croisent. De l'autre côté de l'Atlantique, Montréal souterrain et ses incroyables entrailles, 35 km de réseau pour se cacher du froid et consommer tout à son aise. Véritable casse-tête urbain qui fascine encore Fabien Deglise, sociologue de formation et journaliste au quotidien Le Devoir. Fabien Deglise, merci d'être avec nous. Votre ouvrage est intitulé « Montréal souterrain », en sous-titre « Sous le béton, le mythe », et c'est publié donc aux éditions Héliotrope. Oui. Première question, est-ce que Montréal est votre ville au quotidien, votre ville natale ?
Ville au quotidien, effectivement, oui. Ville que je pratique à chaque jour et dans laquelle j'aime me promener autant en surface que dans les souterrains, oui.
Donc vous avez depuis toujours une attirance pour cette ville enterrée ?
Toujours attirance, oui et non. Surtout un plaisir à la pratiquer dans toutes ses dimensions. Parce que c'est ça qui est la beauté de cette ville souterraine qui, en fin de compte, est davantage une ville intérieure. On l'appelle souvent d'ailleurs la ville intérieure maintenant parce que c'est un enchevêtrement de galeries, mais aussi de galeries protégées, de galeries souterraines et de galeries protégées qui sont en surface et qui laissent rentrer de la lumière à l'intérieur de toutes ces structures.
De la lumière naturelle.
La lumière naturelle. Ouais.
Mais vous parlez quand même d'un sacré casse-tête urbain.
Casse-tête urbain, effectivement, dans la mesure où cet univers-là a été créé dans les 40 dernières années par petits morceaux, sans vraiment une cohérence dans son développement, sans un plan précis dans son développement. On a laissé cette ville souterraine et cette ville intérieure-là se construire de manière très organique, ce qui donne au final, 40 ans plus tard...
Un peu spontané, c'est ça ?
Un peu spontané, effectivement, mais c'est ce qui donne 40 ans plus tard une ville qui est un peu chaotique dans sa structure, dans ses styles architecturaux qui varient d'un endroit à un autre et qui alimente aussi beaucoup d'incohérences en termes de déplacement. Là. Et cette ville-là encourage l'incohérence et exprime l'incohérence.
Alors au départ, Fabien Deglise, qui a eu cette idée finalement pas si folle que ça, que d'imaginer ce Montréal souterrain intérieur?
On peut dire qu'en fait, non, c'était une idée complètement folle. C'est une idée folle qui remonte aux années 60 et en fait qui remonte avant les années 60, dans les années 20-30. La ville de Montréal, le centre-ville, est coupée en deux par un immense trou béant par lequel passent les voies de chemin de fer qui envoient le train de Montréal à l'autre côté du pays, le transcanadien. Et donc, à partir des années 60, un urbaniste du nom de Vincent Pont se rend compte que ce terrain-là, qui se retrouve à être au centre-ville, on n'est pas capable d'exploiter sa valeur commerciale. Et il décide donc de boucher ce trou-là et de construire, de masquer l'ouverture béante.
Sauf
et de construire
dessus. La nature a horreur du vide.
Exactement.
Même en ville, c'est ça?
La nature a eu horreur du vide à ce moment-là. Et effectivement, c'est ce qui a donné le point de départ de cette ville souterraine qui était surmontée par ce qu'on appelle la place Ville-Marie, qui est une premier gratte-ciel de Montréal.
Qui est l'entrée de la ville souterraine, c'est ça?
C'est ce qu'on appelle le centre historique. Les entrées, maintenant, il y en a 880. 1887. Donc il y a 887
portes d'entrée. C'est l'entrée d'origine alors. C'est la première entrée.
C'est ça. C'est le centre historique de ce monde souterrain qui part de cette tour à bureau de 40 étages et qui était le symbole de la modernité montréalaise dans les années 60. Il faut voir que Montréal dans les années 60, avant dans les années 50, c'est une ville qui n'a rien de moderne, mais qui est très animée, mais qui n'a pas encore goûté au plaisir de la modernité. Donc cette tour-là vient asseoir la modernité de la ville et elle s'inscrit dans une continuité avec la gare centrale qui aussi permettait le déplacement des personnes et des marchandises et un hôtel de luxe qui est toujours d'ailleurs l'hôtel Reine-Élisabeth et qui a composé la première partie de cette galerie-là.
Hôtel donc à l'intérieur, c'est ça?
Hôtel à côté, on a la gare, l'hôtel et la tour à bureau qui, elle, est surplombe un centre commercial de 3 étages.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces 35 km de boyaux ou d'entrailles?
C'est la question que...
Je sais pas, on y travaille?
On y travaille beaucoup, on s'y déplace énormément.
Et comment est-ce qu'on circule?
On circule à pied ou en métro, parce que cette ville intérieure-là a été... La construction de cette ville-là, c'est juste a été alimenté aussi par la construction du métro dans les années fin des années 60, 66. Toute la construction du métro montréalais, qui est très jeune.
C'est-à-dire que ça s'est fait ensemble, c'est ça?
La ville intérieure a commencé au début des années 60.
Mais elle n'est possible que grâce au métro.
Le métro la rend possible dans une vingtaine de stations à peu près de métro qui, elles, participe à ce maillage-là souterrain.
D'accord. Alors, on a compris qu'on s'y protège du froid.
Énormément.
On y consomme tout à son aise. C'est quand même une invitation à la consommation.
C'est une invitation à la consommation et c'est dans les plans d'origine. Ça part aussi des travaux de Victor Gruen, qui était l'inventeur des centres commerciaux américains, les centres commerciaux protégés. Et on est dans cette logique-là complètement dans les années 60. Quand on construit la place Ville-Marie, la fonction première de ce bâtiment-là est effectivement d'offrir des bureaux pour les sièges sociaux internationaux, les compagnies comme Air Canada, l'Alcan, et les banques. Les financiers s'installent à la tour et en bas, c'est la consommation et on veut que les gens aient consommé. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les années 50, la consommation dans les rues de Montréal, c'est dans la rue. Et dans la rue, du mois de novembre au mois de mars,
on reste à la maison.
On a deux facteurs assez gênants qui sont la neige, le froid, un troisième, on va dire, avec le vent. Et ça rend la consommation extrêmement difficile. Or, dans les années 60, les gens commencent à vouloir consommer davantage, de plus en plus. Et ça devient des freins à la consommation. Et l'époque n'aime pas ça, les freins à la libre circulation des marchandises et des individus. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on construit le Montréal souterrain ou le point de départ qu'est la place Ville-Marie qui permet aux gens de venir consommer. D'ailleurs, les témoignages qu'on a qui sont fabuleux, la mémoire radiophonique de cette période-là, on a des entrevues avec des gens qui sont dans le centre commercial et qui expliquent que pour eux, c'est la magie, c'est formidable ce qui vient de se passer. Ils vont plus être exposés aux gaz d'échappement dans les rues. Ils vont plus être obligés de mettre les pieds dans la neige mouillée en hiver. Il n'y a plus de froid. Ils n'ont plus de problème, ils n'ont plus la peur de se faire frapper par une voiture en traversant.
Façon de dominer la nature quand même, hein, et les rigueurs du froid.
Dominer, prendre le contrôle sur les éléments et aussi faire ce que Montréal fait très bien depuis une quarantaine d'années. Qui est de nier son existence de ville d'hiver, de ville de froid. Jusqu'à dans les années 50, Montréal a été une ville de froid où les gens composaient très bien avec la neige et l'hiver. Depuis les années 60 et la modernité, on refuse d'admettre à chaque hiver qu'on vit dans une ville de froid. Et cette ville-là participe aussi à cette idée-là.
Alors, est-ce qu'on y vit dans cette ville souterraine?
Étrangement, on y vit très peu. Si vous voulez dire vivre 24 heures sur 24, les gens...
Je veux dire, est-ce qu'on y est logé? Est-ce qu'il y a des logements d'habitation?
Il y a des logements d'habitation qui sont connectés au réseau à différents endroits dans la ville, mais ce qui représente très peu de logements, en fait. La majorité des Montréalais vivent dans des maisons ou des logements qui sont éloignés du Montréal souterrain. Qui doivent marcher dehors une période de temps avant de se rendre dans ces sous-sols-là. Et donc, en termes de vie quotidienne, très peu. Il y a à peu près 1 000 ou 2 000 logements qui sont réellement connectés à ce réseau-là. Mais par contre, on a des universités, on a des cinémas, énormément de cinémas, on a des salles de spectacle, énormément. Je pense que toutes les salles de spectacle de la ville sont connectées au Montréal souterrain, donc tout à portée de métro. Et on a bien sûr les centres commerciaux, les restaurants, des écoles.
Est-ce que le prix du mètre carré de cet immobilier souterrain est équivalent au mètre carré de l'immobilier de surface?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il y a une parité entre la surface et le sous-sol. Mais par contre, ce qu'il y a eu dans les dernières années, c'est que la fiscalité du sous-sol était beaucoup plus avantageuse que celle de la surface. Et ça, c'est une décision qui a été prise au début des années 70 pour favoriser le développement et l'implantation de commerce dans le Montréal souterrain. Le problème, c'est que c'est arrivé, cette mesure fiscale-là, à un moment où la crise économique est arrivée par la suite. Ça a eu pour effet de diminuer la présence en surface et augmenter la présence en sous-sol et à rendre certaines rues principales, les rues historiques commerciales du centre-ville, beaucoup moins attrayantes, parfois même à la limite du Bronx, on pourrait dire. Et donc, ça a été une mesure qui a effectivement permis de développer le sous-sol, mais qui a eu un effet pervers que de limiter le développement de la surface.
Fabien de Glisse, il y a j'imagine, une littérature abondante sur le Montréal souterrain?
Étrangement, non. Le livre qui est ici est certainement le premier qui a été écrit sur le sujet. C'est peut-être la grande surprise de cette aventure d'écriture-là, c'est que le Montréal souterrain intéresse très peu les Montréalais, finalement. Les Montréalais ont un espèce de rapport assez trouble au Montréal souterrain. Ils le fréquentent, ils le vivent, mais ils n'ont plus aujourd'hui la même fierté qu'ils en avaient dans les années 60 ou 70, où cette partie de la ville-là était vraiment un symbole de réussite sur la scène internationale.
Ouais. Vous parlez de la fascination des étrangers pour... C'est-à-dire que nous, Français, on y va forcément quand on débarque à Montréal?
Enfin, juste les Français, les Anglais,
oui,
les Mexicains.
Sûr. L'Europe.
Tout le monde entier. Et j'ai essayé pendant longtemps de comprendre pourquoi l'extérieur était beaucoup plus fasciné par le Montréal souterrain que nous, les Montréalais, qui sommes à l'intérieur.
Mais parce que vous avez le nez dessus, peut-être, non?
On a le nez dessus, mais ce qui s'est passé, c'est que ça a été construit, ça, dans les années 60, à l'époque, juste avant l'Expo 67, qui attirait tout le monde entier, s'est donné rendez-vous à Montréal pour la fameuse Expo 67. Ils sont repartis chez eux, tous ces gens-là, avec une image figée du Montréal souterrain qui était celle de ce Montréal dynamique, moderne, cette vision du futur. Dans les années 60, on pensait, les gens de 30 ans pensaient que leurs enfants allaient vivre dans un univers comme celui-là, pensaient que le travail allait se faire dans un environnement comme ça et que
pensait que l'avenir de la ville...
Dans les années 60, on pensait ça.
Passait par
le sous-sol.
Par le sous-sol.
Et on pensait que la modernité ne pourrait que s'inscrire dans cette espèce de logique souterraine. Et le monde entier donc découvre ça dans les années 60, en 67. Ils sont rentrés chez eux avec cette image figée de modernité exemplaire et de construction et d'urbanisme unique d'une certaine façon. Et donc quand ils reviennent aussi, ou quand leurs enfants ou leurs petits-enfants viennent à Montréal, j'imagine qu'on doit lui dire surtout va voir le Montréal souterrain. C'est un endroit exceptionnel. Ça reste quand même un endroit exceptionnel, mais qui n'a plus aujourd'hui la même...
Attractivité.
Même attractivité et non plus la même symbolique.
Alors, curiosité des visiteurs étrangers et une certaine indifférence des Montréalais, c'est ça?
Une totale indifférence des Montréalais.
Et le livre, c'est pour resensibiliser quand même?
Pas resensibiliser, c'était surtout... C'est un livre qui a pour objet d'essayer de déconstruire ou de reconstruire le mythe autour de cet environnement-là. Parce que c'est vrai que l'indifférence générale des Montréalais à l'endroit du Montréal souterrain est sans doute liée au fait qu'on a oublié son histoire. À force de marcher dedans, on a oublié ce que c'était. Pour nous, c'est un métro et des centres commerciaux plus ou moins intéressants dans lesquels on est parfois obligé d'aller le samedi pour aller acheter un morceau de vêtement, comme on dit. Mais on a oublié l'histoire, on a oublié ce monde-là avait comme rêve, les rêves qui ont participé à la construction de cet univers-là.
C'est un cas unique sur la planète.
Jusqu'à maintenant, c'est un cas unique, mais c'est là aussi peut-être le deuxième paradoxe du Montréal souterrain, très peu apprécié chez lui, mais très apprécié à l'étranger et surtout qui est en train d'être copié un peu partout sur la planète. Un endroit pas très loin de Montréal qui est Toronto, oui, qui est en train de développer un réseau de galeries souterraines.
Bien pris par le froid aussi, hein, qui et aussi, par les glaces.
Le froid glace sur tous les vents aussi, à cause des masses d'eau qui sont générées par les lacs, mais les grands lacs autour. Moscou est en train de développer son...
Et Tokyo aussi, non?
Tokyo, l'Asie.
Ce sont des villes qui creusent, c'est ça?
Creusent énormément pour essayer d'aller chercher de la surface en sous-sol, un petit peu comme Montréal, parce que si Montréal s'est développé en sous-sol, c'est pas un accident si ça s'est passé à cet endroit-là. C'est qu'il y avait d'une part le trou béant laissé par la voie de chemin de fer, mais aussi une morphologie du centre-ville, du nouveau centre-ville, en fait, parce que ça correspond maintenant au nouveau centre-ville, celui des années 60. Une morphologie particulière qui, elle, fait que le terrain est délimité au sud par le fleuve Saint-Laurent et au nord par ce qu'on appelle, nous, la montagne, qui est en fait une butte de 233 mètres et qui restreint le développement de la ville.
Ça encadre, hein? Ça enserre, c'est ça?
C'est ça. On est enserré. Et donc, l'urbaniste à l'origine de ça, Vincent Pont, avait dit pour que le centre-ville soit agréable à visiter, à vivre, il faut qu'on puisse le traverser en 15 minutes. Et donc, dans cet esprit-là, et vu les contraintes morphologiques, il n'y avait pas d'autre solution que d'essayer d'appréhender cette ville-là dans sa tridimensionnalité et donc de construire en surface des tours à étage à l'américaine et de développer le sous-sol pour être capable d'avoir le plus possible, d'avoir une densité intéressante à cet endroit-là.
Est-ce que l'on peut parler d'architecture souterraine, enfin, c'est d'un style quand même?
C'était très difficile de définir le style.
À quoi ça ressemble? Ça ressemble.
C'est une espèce de courte pointe, un patchwork, comme on dit. C'est un assemblage de pièces plus ou moins cohérentes qui, chacune, ont leur époque. On est capable de rentrer dans, on a le brutalisme des années, brutalisme des années 70, là, le béton, là.
On a ça aussi.
On a cette partie. Mais des parties de la ville souterraine sont comme ça. On a une partie récente qui a été construite au début des années 2000, qui, elle, est très éclairée, très vitrée, très métal et vert. On a aussi, des éléments beaucoup plus, années 80, avec des couleurs pastels, assez difficiles à vivre d'ailleurs, je veux dire, à cet endroit-là. Mais donc, on est capable de, quand on se promène avec le regard allumé, on est capable de dater chaque partie, chaque élément de ce casse-tête, de ce puzzle qui a été construit sous terre.
Oui. Bon, on regrette que Jacques Tati n'y ait pas planté ses caméras.
Effectivement, il aurait eu là un décor fantastique. Pour faire ses films et pour rire de cette modernité-là.
Est-ce que tout Montréalais qui se respecte est descendu au moins une fois dans sa vie, dans ce sous-sol?
Je pense que oui, parce qu'on est obligé d'y descendre, soit pour prendre le métro. Le métro est un mode de déplacement très, très agréable en hiver. Et forcément aussi, il y est descendu pour aller faire du shopping, pour aller magasiner, comme on dit à Montréal. Et il y est aussi descendu pour aller voir des spectacles. Le monde entier se donne rendez-vous dans le Montréal souterrain. Des concerts extraordinaires. On est capable à portée de métro d'avoir un concert de Keith Jarrett ou de voir les Rolling Stones ou même U2, Depeche Mode vient bientôt. On va y avoir accès dans ce Montréal souterrain-là. Donc c'est un point de passage obligé. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont une certaine indifférence par rapport à cet environnement-là qui fait partie de la ville. Et je pense que le fondateur de Vincent Pont serait très content finalement de cette indifférence-là parce que lui rêvait une ville intérieure qui n'avait rien d'extraordinaire par rapport au reste, qui était juste un emboîtement logique et qu'il n'y ait pas de différence. Donc,
un prolongement
naturel.
Pas de rupture.
Naturel et organique, oui.
Et il se dit, il s'écrit quand même un certain nombre de choses sur cette ville souterraine. Est-ce qu'il se fantasme beaucoup de choses aussi?
Les fantasmes de la ville souterraine, oui, sont très nombreux, surtout venant de l'étranger, alimentés par l'étranger. Les fantasmes de la ville souterraine, c'est ce fantasme-là de la vie marginale souterraine, ou le fantasme de la vie intérieure.
À la marge.
C'est d'une espèce de citoyenneté intérieure, d'avoir des places publiques où les gens se rencontrent, ça, c'est très fantasmé parce que...
Mais vous n'avez pas ça, Montréal.
Non, c'est très peu. On encourage justement le déplacement et on a cherché à aseptiser ce réseau-là. on veut pas trop que la vie s'arrête dedans pour des raisons de sécurité. Depuis 2000, ça s'est accentué.
Je ne vous imaginez pas aussi sage
et
dans
oui,
cette ville.
Malheureusement, oui. Et c'est depuis le début des années 2000, la sécurité a pris le dessus sur l'urbanisme. Et pour des raisons de sécurité, on essaie de limiter les arrêts des individus.
D'accord.
Et bien, c'est amusant parce qu'à plusieurs endroits, il y a des places intérieures formidables, avec des baies vitrées formidables. Mais personne n'a pensé ou personne ne va penser mettre des plantes vertes et surtout des bancs publics. Donc on attend toujours dans ce réseau-là les gens. Quand debout, faut être debout pour attendre les gens. C'est un petit peu le problème. Et dans les années 80, on a commencé à faire ce ménage-là, cette aseptisation du réseau pour des raisons de sécurité. Quand on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes commençaient à traîner dans ces galeries-là pour essayer de s'amuser ou de vivre leur jeunesse tout simplement, les personnes un peu plus âgées ont trouvé ça un petit peu moins drôle et ont demandé qu'on fasse le ménage. Et c'est surtout la police qui a pris le lead, comme on dit, sur ce projet-là sécuritaire, parce qu'ils se sont rendus compte qu'une personne pouvait commettre un méfait à un endroit de la ville, rentrer dans une des 887 portes et ressortir par une des 886 autres. Et donc, d'un point de vue de gestion de la criminalité, c'était un peu plus compliqué.
C'était pas facile à retrouver. Ouais. Alors, dans un instant, nous allons retrouver Marseille. Une jeune chercheuse nous attend. Mais je pense qu'il y a peut-être entre vos deux livres un lien, parce que vous avez deux terrains d'enquête. Vous, c'est les souterrains de Montréal, et à Marseille, Florence Bouillon, ce sont les mondes du squat. Est-ce qu'il y a quand même des squats dans les sous-sols de Montréal? Est-ce que on peut dire ça comme ça?
Et en fait,
ou est-ce que les sous-sols sont des abris pour les squatteurs?
Non, il n'y a aucun abri pour un squatteur.
J'ai cherché à faire un lien, mais qui n'existe pas.
Il a existé il y a quelques années, mais il n'existe plus parce que justement à cause de cette logique d'aseptisation qui a fait en sorte qu'il n'y a plus de recoins, il n'y a plus de tunnels cachés, il y a tout ce qui pourrait laisser cette vie marginale se développer est très bien contrôlé. Les portes sont très bien fermées, les galeries parallèles sont très bien protégé, avec
en
des
fait,
systèmes d'alarme.
C'est aussi un monde verrouillé, alors.
Très verrouillé, d'accord. Et aussi très policé. C'est un monde qui est... Je m'amuse toujours à dire que quand on est dans le Montréal souterrain, c'est le Truman Show. Hein. On est en permanence surveillé par une caméra. Donc, il n'y a pas un recoin de cet espace-là qui n'est pas
balayé. Ça me fait penser davantage à Monaco, je vais vous dire.
Aussi.
Hein, où il y a pas mal de caméras.
C'est vrai.
Quand on circule.
C'est un peu comme ça, oui.
Et dans un instant, nous serons à Marseille. Florence Bouillon, merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Vous êtes à Marseille, dans les studios de France Bleu Marseille, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient d'être publié au Monde, des éditions PUF. Vous avez eu un prix d'ailleurs pour les mondes du squat.
Oui, la publication procède effectivement du prix de la recherche universitaire décerné par le quotidien Le Monde.
D'accord, vous êtes docteur en anthropologie et vous êtes membre du département de sociologie, d'histoire, d'anthropologie, des dynamiques culturelles à l'école des hautes études en sciences sociales de Marseille, où vous enseignez également.
C'est ça.
Alors, vous venez d'entendre Fabien Deglise. Vous connaissez-vous les sous-sols de Montréal?
Pas du tout. J'étais tout à fait passionnée par ce qui était raconté précédemment, à la fois sur les contrastes évidemment flagrants avec les univers dont je parle, mais aussi pour revenir sur le début de l'intervention, sur un certain nombre de parallèles, alors qui m'étaient tout à fait inconnus, qu'on pourrait faire entre Montréal et Marseille. Alors évidemment pas du point de vue climatique, ça je pense qu'on est évidemment aux antipodes, mais sur cette question d'une urbanisation qui s'est faite largement spontanément et qui donne le sentiment d'une ville un petit peu anarchique dans laquelle les plans, les planifications n'ont pas été très, très efficaces. On a une histoire finalement assez similaire, une histoire urbaine assez similaire entre ces deux villes si différentes par ailleurs.
Florence Bouillon, vous êtes restée 10 ans dans ce monde des squats, une dizaine d'années pour à la fois observer, analyser, décentrer le problème. Il a fallu 10 ans, une décennie.
Oui, avec des moments d'enquête, de terrain, d'immersion et des rythmes très différents. Il ne s'est évidemment pas agi de 10 années en continuité de fréquentation de ces espaces et de relations avec leurs habitants. Mais entre les premiers moments, effectivement, ou de retour de Barcelone et après une première découverte des squats barcelonais, j'ai eu envie de connaître la situation des squats en France et plus spécifiquement à Marseille. Et la fin du travail de thèse, 10 ans se sont écoulés, ce qui m'a permis de suivre une grande partie des habitants rencontrés sur une longue période. Donc c'est un travail qui, sur le plan universitaire, a été long à se concrétiser.
Oui, mais qui est fructueux, hein.
Je vous remercie de le dire. En tout cas, le grand avantage, finalement, ça a été de pouvoir suivre comme ça sur une longue période des personnes et de pouvoir un peu voir comment le squat s'inscrivait dans leur trajectoire.
D'accord. Et puis alors, vous êtes dans le même cas de figure que Fabien de Glis, qui est donc a écrit Montréal souterrain. C'est le premier ouvrage publié sur cet univers souterrain. Et je pense que le vôtre, sur les mondes du squat, c'est aussi un premier ouvrage.
Alors, certainement que la manière dont j'aborde ces espaces n'avait pas été tout à fait au centre d'autres travaux. On a d'autres livres qui traitent des squats. Je pense à l'ouvrage d'Isabelle Coutant qui s'intitule « Politique du squat », mais qui aborde plutôt la manière dont la présence des squatteurs dans un quartier noue des tensions entre habitants, rejoue des positions sociales, etc. Cécile Péchu, qui est politologue, a fait un travail tout à fait passionnant sur l'association Droit au logement, dans lequel, bien sûr, on parle aussi de squat, mais plutôt comme un mode d'action politique. Et puis, on a d'autres travaux qui n'ont pas forcément été publiés, ou des articles de Marc Préfiguieri et Johann Stavaux-Debauche, tout à fait passionnants sur des squats en Suisse et la vie collective qui s'y trame. Donc, on a des choses, mais peut-être que ce n'était pas tout à fait fait sous le même angle et avec non plus une immersion dans ces univers tout à fait équivalentes.
Comment est-ce que vous avez travaillé ? Vous preniez rendez-vous avec les squatteurs et où était votre place ? Vous étiez face à eux ou à leur côté ?
C'est une grande question et c'est une question qui n'est jamais totalement, j'ai envie de dire, résolue pour l'anthropologue ou pour l'ethnographe, en tout cas pour le chercheur de terrain qui pratique ce qu'on appelle l'observation directe, c'est-à-dire qu'il est effectivement immergé dans les situations, qu'il passe du temps avec les personnes, qu'il entre en relation avec eux. Pour ce qui me concerne, j'ai aussi habité dans des squats, dans certains de ces espaces à plein temps pendant quelques semaines. Je crois que toutes ces places varient et que la tension entre la proximité et la distance, elle est précisément au cœur de la construction scientifique et qu'on essaie à la fois d'être dans une proximité relationnelle et une empathie qui est au fondement de la situation et au fondement de l'intérêt qu'on porte aux personnes et aux situations et en même temps de pouvoir garder une place clairement extérieure, externe à la situation, distanciée exactement, parce que c'est la condition finalement de production d'un propos qui...
C'est-à-dire que vous n'avez pas été tout à fait squatteur avec les squatteurs.
Non, j'ai toujours clairement été identifiée comme une étudiante et j'ai toujours tenu absolument à être identifiée comme telle. Je n'ai pas travaillé incognito, mais j'ai toujours travaillé en exposant clairement mon propos et ma situation, ce qui permet aussi aux gens de refuser ou d'accepter ma présence.
Absolument, de collaborer.
Absolument, de coopérer. Volontairement ou pas.
Où sont les squats dont vous nous parlez dans les mondes du squat ?
Alors à Marseille, ils sont situés pour une large partie d'entre eux, évidemment pas tous, mais beaucoup de squats sont situés dans l'hypercentre marseillais, c'est-à-dire dans des quartiers très populaire, ce qui s'explique par un certain nombre de facteurs. Et là, on retrouve l'histoire longue de la ville et de la construction politique et urbaine de ce territoire. Mais pour plusieurs raisons qui tiennent à la fonction d'accueil et de transit de cet hypercentre populaire, du fait aussi qu'on y trouve beaucoup de logements vacants. Et que ce
encore
soit...
aujourd'hui ?
Oui, encore aujourd'hui. Alors évidemment, tout ça est très bouleversé par les grands projets de réhabilititation qui se déploient aujourd'hui à Marseille.
Et de Marseille, capitale culturelle en 2013, c'est
absolument. Ça ? Absolument. Donc après Euroméditerranée, plus tout un
l'arrivée
ensemble...
L'arrivée du TGV.
L'arrivée du TGV, les OPH, les PRI, tout un ensemble de projets d'aménagement et de réhabilitation du centre-ville. Les choses bougent énormément. La vacance va certainement et a déjà peut-être d'ailleurs... était en décroissant, mais les réhabilitations sont aussi des moments de transition où finalement un certain nombre de logements sont vidés parce qu'on les réhabilite et que les habitants sont relogés ailleurs. Et on a donc à ce moment-là des trous dans la ville qui se créent et qui peuvent aussi permettre à des habitants de s'installer, des squatteurs, d'occuper l'espace.
Alors pourquoi dites-vous que les squatteurs sont des urbains, enfin parmi les urbains, les sans doute les plus débrouillards, les plus compétents et parmi les mieux avisés, des experts de la ville.
Oui, alors l'intention générale, je pense, notamment de cet ouvrage, c'était de décrire quelque chose qui m'avait tout simplement beaucoup marqué au cours de ces mois passés dans différents squats de la ville, c'est-à-dire que les gens qui étaient évidemment pour leur grande majorité, dans la grande majorité des individus en situation de précarité, puisque c'est d'abord parce qu'on n'accède pas au logement ordinaire, on va dire, qu'on squatte.
C'est un produit du mal logement quand
absolument,
même, le squat. Oui.
Absolument, et c'est toujours très important de le rappeler, du mal logement et puis du non-accès aux droits, de la production des irréguliers, de la production des indésirables, etc., d'un ensemble de politiques et de leurs apories ou de leurs inadéquations, au premier plan desquelles, évidemment, la politique du logement. Mais dans ces univers, donc, je me trouvais aussi face à des personnes qui déployaient des savoir-faire, des savoirs et des savoir-être tout à fait intéressants et multiples, et notamment, effectivement, la pratique du squat, elle implique de savoir, ne serait-ce que repérer des espaces vacants, de s'assurer de leurs vacances, de savoir comment y entrer.
Bien les ouvrir.
De bien les ouvrir, exactement. Ouvrir un squat, c'est aussi bien. Alors, tout le monde
il y a presque un mode d'emploi précis quand même dans votre ouvrage.
Et oui, il m'a semblé important de décrire tout ça.
Comment ouvrir un squat.
Comment ouvrir un squat, bien sûr. Oui, c'est des choses qu'on trouve d'ailleurs par ailleurs, des conseils qui peuvent être donnés aux squatteurs sur certains sites militants.
Mais
on
il
va
n'est
dire.
Pas squatteur qui veut non plus.
Ça demande un apprentissage, ça demande une socialisation parce que tout le monde n'ouvre pas un squat, on va avoir des familles qui vont rejoindre d'autres familles, etc. Mais pour ceux qui finalement sont suffisamment aguerris pour ouvrir leur propre squat, effectivement, il faut connaître un certain nombre de techniques et puis il faut pouvoir jauger de la on va dire de la sociologie d'un quartier parce que
de l'environnement,
voilà,
des voisins immédiats,
qui ne doivent pas être trop hostiles, sinon ils sont dénoncés très rapidement et le risque est l'expulsion manu militari. Et puis il faut pouvoir être coopté par un environnement aussi relationnel et donc pouvoir déployer un certain nombre de compétences dans l'interaction, de compétences de modalités de présentation.
Donc il y a une culture de la débrouillardise urbaine, c'est ça?
Oui, il y a en tout cas des choses qui s'acquièrent, qui s'apprennent et qui se transmettent.
Et qui sont nées de la contrainte, bien sûr.
Qui sont nées de la contrainte. Et c'est en ce sens-là que je propose tout à fait modestement une notion qui est celle de compétences précaires, parce que ce sont des savoirs et des savoir-faire qui sont acquis dans ces situations de vulnérabilité, qui sont induites par l'incertitude de la situation et qui en même temps sont très très peu visibles dans l'espace public, très peu réversibles sur d'autres scènes sociales. Et c'est la question sur laquelle je conclue d'une certaine manière mon
c'est
ouvrage.
Laquelle
c'est celle de, effectivement, la manière dont cette ensemble de savoir et de savoir-faire, de compétences, de savoir-être en situation pourrait faire l'objet d'une reconnaissance, puisque bon, parmi beaucoup d'autres chercheurs, j'estime que au-delà, mais avec les conditions matérielles, la sortie de la précarité ou de la vulnérabilité induit une restauration de la crédibilité.
Mais vous ne cachez pas non plus la violence qui se dégage aussi.
Tout à fait, c'est des univers qui ne... Le risque, encore une fois, hein, là, il est entre populisme et misérabilisme, pour prendre la fameuse terminologie de Jean-Claude Passeron à propos des classes populaires. Il ne s'agit évidemment pas de présenter une version romantique de ces univers, qui sont d'abord des univers de la contrainte, de la violence symbolique, hein, c'est-à-dire de gens qui sont quand même toujours appréhendés comme des indésirables, avec le prisme très fort pour les squatteurs du parasitisme, hein, de gens qui profitent finalement du système. Donc il est très important de rétablir d'abord les mécanismes structurels qui vont produire ces situations, et puis d'expliquer aussi comment la vie quotidienne est dure, est éprouvante quand on se trouve dans un squat, et que généralement on a envie d'en sortir. Hein, les squatteurs, je parle essentiellement des squats, on va dire, d'habitation, parce que certains squats sont des squats politiques, militants ou artistiques, et d'autres logiques s'entremêlent à celles du logement, mais pour l'immense majorité des squatteurs, le squat n'est pas un choix, c'est une contrainte, c'est un choix qui est lourd de conséquences, qui place dans une situation d'incertitude, de stigmatisation, d'inconfort, et on espère en sortir.
Alors, aux marges de la ville ou au centre de la ville, est-ce que les squats se déplacent aujourd'hui ?
Certainement, c'est difficile à observer parce que ce sont des espaces mouvants, labiles, difficiles d'accès. Donc, il est très difficile d'en faire une cartographie précise. Quand je disais tout à l'heure que les squats que j'avais observés étaient dans le centre-ville de Marseille, bien évidemment, il y en a ailleurs dans la ville. On peut, par raisonnement, aussi par observation d'ailleurs, mais par raisonnement logique, supposer qu'avec ces processus de réhabilitation, et donc certainement, puisque c'est mécaniquement généralement comme ça que ça se passe, de gentrification, les squats vont être amenés à disparaître du centre-ville, comme d'ailleurs d'autres types de logements bon marché, hein, donc comme d'autres types pour aller certainement dans des quartiers plus excentrés, dans le nord de Marseille, là où les quartiers font moins l'objet de l'attention publique et de l'action publique, hein, et où des espaces comme ça, vacants, vont peut-être demeurer existants. Et puis peut-être ailleurs, dans des campings, on voit bien que les campings à l'année se développent, et peut-être dans des formes de bidonvilles, ça aussi, on sait que des formes de bidonvilles se recréent aux portes des villes. Donc la question centrale, c'est effectivement celle du droit à la ville, hein, que posent les squats, hein, pour reprendre l'expression du célèbre sociologue Henri Lefebvre, c'est-à-dire du droit d'accéder à la centralité urbaine, qui n'est pas qu'une centralité topographique, mais qui est l'accès à la ville en tant qu'elle est un lieu de ressources, d'équipement, etc., de sociabilité.
Et qu'elle est accessible et gratuite. Est-ce que l'on peut être squatteur et clandestin ?
Alors on peut évidemment être squatteur et clandestin, quoique le terme clandestin, ce soit un terme que personnellement je n'utilise pas, qui à mon avis est d'un registre politique et qui recouvre une catégorie, comment dire ça, qui génère assez facilement des formes de stéréotypes. La figure du clandestin, elle cache des histoires individuelles, des itinéraires biographiques d'abord extrêmement variés, et généralement on qualifie comme tels des gens qui, pour diverses raisons et dans des conditions extrêmement hétérogènes, n'ont pas de papier, hein, sont dans une situation d'irrégularité administrative.
C'est ce que je voulais dire. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc il y a, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup effectivement de gens qui n'ont pas de papier et qui sont dans des situations absolument inextricables du point de vue du logement, même quand ils travaillent, on le sait bien maintenant. Et donc ils se retrouvent dans les squats. Donc une partie des habitants des squats sont des personnes qui n'ont pas de papier. Mais ce qui est effectivement extrêmement important à rajouter, c'est qu'on trouve aussi dans les squats beaucoup de personnes qui ont des papiers, voire qui sont français, tout à fait, et qui n'acceptent pas le logement.
On connaît en France des gens qui dorment dans leur voiture, par exemple.
Exactement. Donc on est loin de se cantonner à une question d'irrégularité administrative. On est dans un problème bien plus vaste, qui est celui de l'accès au logement, et là évidemment malheureusement qui concerne une large partie de la population.
Et quelle est la réponse possible des pouvoirs publics ?
Allez, certainement d'abord à penser en termes justement de politique du logement, hein, c'est-à-dire d'une volonté politique suffisamment ferme pour que du logement social soit construit de manière intensive, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on construit des grandes tours, parce que l'urbanisme, les formes d'urbanisme dont on parlait tout à l'heure sont obsolètes, elles le sont pour tout le monde, mais on a quand même la capacité de construire un logement social sur des échelles beaucoup plus petites et beaucoup plus diffuses dans le bâti existant. Je crois que c'est d'abord cette réponse-là qui s'impose. On pourrait aussi intégrer dans les réponses bien d'autres dimensions des politiques publiques qui ont trait à la protection sociale, à l'accès aux droits, et donc y compris au droit à l'accès au séjour. Mais je crois qu'il y a une autre chose sur laquelle il serait vraiment important d'agir, qui est le droit, parce qu'on a un certain nombre, ou plutôt les usages du droit. Parce que ce qui produit aussi du squat, c'est finalement le fait que les habitants des squats soient expulsés quasiment systématiquement, au terme d'une procédure juridique le plus souvent. On peut être expulsé de manière militaire.
Ça dure combien de temps, un squat ?
C'est très variable. C'est très variable. On va dire qu'on est souvent dans des situations où le squat vivra quelques mois. Parfois, ce sera beaucoup moins, parce que les squatteurs sont pris en flagrant délit quand ils arrivent. Donc, dans ce cas-là,
ça s'arrête très vite.
Voilà, la police peut les expulser manu militari. Et puis parfois, le préfet.
Il n'y a jamais de squat qui dure.
Alors, si, quelquefois. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux cas de figure. Un squat qui finalement, ce sera le cas par exemple d'un certain nombre de friches culturelles à Paris, qui va être légalisé, institutionnalisé, reconnu avec des modalités différentes par les pouvoirs publics, souvent par la mairie, par les pouvoirs locaux, et pouvoir se pérenniser, même si les conditions ne sont pas toujours d'une grande sécurité.
Mais là, il faut des artistes quand même.
Généralement, il faut des artistes. Et puis,
marche mieux.
Ça marche mieux, voilà. C'est la question de la figure légitime du squatteur qui se pose. Et puis, un autre cas de figure, ce sera au moment où, malgré la décision du magistrat d'expulser, le préfet n'autorisera pas le recours à la force publique, puisqu'on a une dernière étape qui est l'autorisation par le préfet du recours à la force publique. Et le préfet, jugeant que la situation était trop grave du point de vue social, humanitaire, ou que le trouble à l'ordre public généré par l'expulsion du squat serait importante, il suspend l'expulsion, et on est dans ces situations un petit peu d'entre deux où les habitants vont rester en payant des indemnités d'occupation aux propriétaires, mais sans bénéficier vraiment d'un bail et de protection qui lui sont affinées.
Mais c'est une forme de désobéissance civile quand même, le squat.
On pourrait le dire comme ça, tout à fait. C'est d'abord une manière, je crois, de refuser. Moi, je le pose volontiers comme en termes de refus, c'est-à-dire que un refus signifie qu'on a une contrainte forte au départ, mais aussi qu'on est en capacité de réagir vis-à-vis de cette contrainte, de se réapproprier en l'occurrence là d'abord un espace, et puis un sens, et puis une continuité géographique.
Et qu'est-ce qu'on dit au propriétaire quand même qui veut récupérer son bien?
Ça dépend qui. On pourrait dire que c'est effectivement souvent compliqué pour un propriétaire de récupérer son appartement. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que dans la grande majorité des cas, les squats ne sont pas installés, ça arrive bien sûr, mais ne s'installent pas dans un petit appartement appartenant à un propriétaire privé. D'abord, première chose, c'est toujours dans des lieux vacants, parce qu'on a une crainte comme ça qui est un peu fantasmatique sur le fait qu'on va partir en vacances et il y a peut-être des squatteurs qui s'installeront. Non, pas du tout. Là, il s'agit d'une violation de domicile. C'est très, très, beaucoup plus grave sur le plan pénal. Et donc, ce n'est pas du tout ces situations-là. Les squats sont installés dans des lieux qui sont vacants depuis des années, voire des décennies, et qui, dans de très nombreux cas, appartiennent à soit des gros groupes financiers ou industriels, soit au pouvoir public, différentes structures qui ont des patrimoines qui ne parviennent pas à gérer ou à occuper. Donc les situations sont un petit peu différentes, et le magistrat en tient compte, entre un squat
d'un petit propriétaire.
Exactement. Donc les conséquences ne sont pas les mêmes, ça paraît aussi tout à fait cohérent d'en tenir compte, et le préjudice n'est pas le même. Il s'agit d'une personne privée dans ce cas-là, qui est lésé quand même d'un bien, dont on peut toujours tout à fait comprendre que ce soit absolument pas acceptable en tant que tel, en tout cas que ça pose problème. Quand il s'agit d'un immense bâtiment de 3000 m² qui appartient à une collectivité territoriale ou à diverses structures de ce type, ou à un grand groupe industriel qui n'en fait rien depuis 10 ans, les choses se posent un petit peu différemment.
Dans d'autres termes.
Tout à fait.
Fabien Leglisse, vous entendez tout ça? Il y a des squats à Montréal?
Il y a des squats qui sont à l'extérieur généralement à l'extérieur de la ville.
À la périphérie.
À la périphérie, ouais. Beaucoup, mais très très peu.
Sur des friches industrielles, comme ça, sur des terrains privés ou collectifs.
Très très peu. Je pense que le facteur hivernal vient nuire au développement des squats, qui sont une activité qui pourrait se situer seulement entre mois de mai et le mois de septembre, parce qu'après ça, un squat sans chauffage et sans fenêtre, surtout, c'est pas très agréable à vivre à Montréal. Mais par contre, dans le réseau souterrain, on retrouve non pas des squatteurs, mais des itinérants qui, eux, prennent de temps en temps possession du réseau et sont plus ou moins tolérés. Il y a une règle un peu implicite qui dit que quand à l'extérieur il fait moins de zéro, par exemple, ou moins, quand on arrive à moins 10 ou moins 15 degrés, les itinérants sont un peu plus tolérés dans les réseaux du métro et du Montréal souterrain. Mais le reste du temps, ils sont généralement évacués assez rapidement.
Florence Bouillon.
Oui, non, c'est effectivement relatif aussi à ce qui était évoqué tout à l'heure à propos de la ville aseptisée. Et je crois que Marseille est une ville dans laquelle on a encore finalement ces recoins, ces espaces un peu en friche, cette informalité dans la ville.
Marseille, c'est Marseille, c'est sûr.
Marseille, c'est Marseille. Cela dit, à Paris, on a aussi quand même de très nombreux squats, finalement, dans les villes françaises.
Oui, à Paris, il y a beaucoup de squats aussi.
Alors, c'est très difficile à chiffrer.
Il y avait un squat très connu qui était rue de Rivoli, un squat d'artiste.
Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais pensez à Cachan, pensez à la miroiterie, au carrosse, enfin les squats artistiques sont nombreux, mais ça c'est vraiment
Mais ça c'est des squats connus, répertoriés, c'est ça?
Alors certains squats d'artistes sont effectivement connus, répertoriés, et puis sont publicisés de leur propre fait, j'allais dire, c'est-à-dire sont dans une démarche de lien avec le quartier, de publicisation des œuvres qui sont menées, une démarche citoyenne, une démarche militante, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront pérennisés, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'expulsions de squats de ce type, mais ça, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg, et derrière ça, on a des milliers de squats qui sont invisibles, et au contraire, où les gens essayent de se faire le plus discret possible, redoutant d'être expulsé. Donc on a beaucoup de mal évidemment à chiffrer les squats en France. La statistique publique n'est pas en mesure de le faire complètement, mais il y a quelques rapports publics qui ont été produits et qui donnent des estimations. Et l'un d'entre eux, qui avait été fait par les Ponts et Chaussées, estimait à 3000 le nombre d'habitants des squats, uniquement des squats collectifs, donc des gros squats à Paris il y a quelques années. Donc on est de toute façon dans une évaluation qui est forcément inférieure à la réalité, mais ça donne déjà une idée quand même de l'ampleur du phénomène.
Florence Bouillon, pourquoi dites-vous que les squatteurs ont mauvaise réputation? Et est-ce que c'est pour défaire ce cliché que vous avez en partie écrit ce livre, Les mondes du squat, au PUF?
Oui, certainement que c'est une intention finalement qui traverse dans une certaine mesure peut-être les sciences sociales, c'est-à-dire qu'on est tous finalement dans un rapport au monde qui est traversé de stéréotypes, de prénotions, de ce qu'on appelle le sens commun. Et la démarche finalement sociologique et anthropologique est toujours d'aller voir au plus près du réel pour densifier et complexifier cette réalité qu'on appréhende spontanément de manière forcément limitative. Je pense que...
Mais c'est une mauvaise réputation, vérifiée, justifiée ou pas? Parce que je crois que vous écrivez aussi que cette mauvaise réputation fait partie de leur vie, voire de leur force et de leur vitalité.
C'est la réaction qu'on peut plus avoir face à cette mauvaise réputation qui va pouvoir construire finalement, permettre à certains en tout cas de s'affranchir en partie de cette mauvaise réputation. Elle est visible à tous les niveaux, cette mauvaise réputation. Moi, j'ai fait des entretiens avec les voisins, avec des magistrats, j'ai épluché la presse quotidienne, j'ai travaillé sur les décisions des tribunaux, etc., pour voir un petit peu quel était ce qui sortait, ce qui était associé sur le plan sémantique au squat. Et ce qui revient de manière très très fréquente, c'est la figure du faux pauvre, c'est-à-dire que de gens qui font semblant d'être pauvres pour profiter du système. Donc on a deuxième schème, c'est celle celle du, voilà, du profiteur. Et puis, la question de permanente de l'insécurité, de la dangerosité, ce sont des gens pauvres, ce sont des gens parfois mobiles, ce sont des gens qui viennent souvent de loin et qui inquiètent et qui font peur. Alors, on peut très bien comprendre que dans un immeuble, quand on a un squat, qu'il y a du passage, qu'on ne sait pas qui sont les gens, ça génère un certain nombre de craintes. Mais on est au-delà de ça, dans des figures vraiment, je crois, symptomatiques de la manière dont nos sociétés appréhendent la mobilité, appréhendent la pauvreté et appréhendent l'altérité. Donc c'est dans ce sens-là que les squatteurs ont mauvaise réputation. Et je crois que l'une des qualités, on pourrait dire, de ces espaces-là, dont j'essaie aussi de retracer les ressources, hein, en quoi ces espaces-là sont des lieux qui permettent aussi à des nouveaux arrivants dans une ville de s'intégrer dans un espace urbain et puis dans une société, comment ce sont des lieux qui font ressource et leur disparition pose problème en ces termes-là. Ce sont aussi des espaces qui sont traversés par une rhétorique militante, hein, puisque un certain nombre d'associations, voilà, usent du squat pour faire pression auprès des pouvoirs publics et puis
C'est une tribune, enfin, je veux dire, voilà. C'est une façon de dire les choses.
Exactement.
Sur le plan à la fois artistique et politique.
Tout à fait. Donc, dans la mesure où le squat, alors tous les squats ne sont pas évidemment des squats militants, ni organisés par des associations militantes, mais le fait que ce soit un moyen d'action politique et culturelle et citoyen, etc., permet à de nombreux habitants de finalement s'approprier une rhétorique de l'émancipation et du combat et de mettre à distance ces schèmes finalement stigmatisants de la marginalité, de la déviance.
Merci à vous deux. On lira avec bonheur vos deux ouvrages, Les mondes du squat et Montréal souterrain. Merci donc à vous de votre participation. On se retrouve toute la semaine sur notre site franceculture.com. Vivre sa ville, écoute, réécoute et agenda des villes. Dimanche prochain, 7h05, architecture et maisons à vivre. Vivre sa ville, une émission de Claire Martin-Dugard, Charles Rangard, Dimitris Capelan, Véronique Villa et Sylvie Andreu. Excellente journée à toutes et à tous et à dimanche prochain.